Débat BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par Saint-Igemantard Tonté. Le débat.
Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour une cinquantaine de minutes de décryptage de l'actualité africaine. C'est le débat BBC Afrique, Africa Radio. Le Mali sera notre première destination avec une actualité qui a été riche et pleine de rebondissements. La libération du leader de l'opposition, Soumaïla Cissé, après 6 mois de captivité aux mains d'un groupe dont on ignore encore le nom. Il y a aussi eu la remise en liberté de personnalités dont l'ancien premier ministre Boubou Cissé, arrêté par la junte lors du coup d'état du 18 août dernier, et puis la levée des sanctions de la CEDEAO après la nomination d'un gouvernement de 25 personnalités militaires et civiles pour mettre en œuvre la transition et amener le pays à des élections. Ils ont 18 mois donc pour y arriver. Quelles vont être les priorités pour cette équipe mixte dans laquelle la junte prend 4 ministères et pas des moindres? La défense, la sécurité, la réconciliation nationale et l'administration territoriale, nous en débattrons. En Côte d'Ivoire, à 3 semaines de la présidentielle, alors que la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU ont exprimé leur inquiétude face au manque de confiance entre les acteurs, les opposants ont prévu ce samedi 10 octobre de réaffirmer leur appel à la désobéissance civile. Ils réclament le report des élections ainsi que la révision de la commission électorale indépendante et du conseil constitutionnel. Le camp adverse affiche toujours une fin de non-recevoir, ne reconnaissant aucune crise institutionnelle nécessitant une réforme de ces institutions. Et puis notre troisième sujet, quelle chance pour la pacification du Nord Kivu après la tenue du mini-sommet de Goma. Sommet par visioconférence à l'initiative du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et qui a réuni ses homologues du Rwanda, de l'Ouganda et de l'Angola. 3 heures de discussion, pas de décision majeure dans cette rencontre censée réaffirmer la volonté des chefs d'État de la région de, je cite, « renforcer les mécanismes sous-régionaux existants afin de couper les forces négatives des sources de financement ». Fin de citation. Voici donc pour le menu et voici notre panel aujourd'hui avec comme grand témoin Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali. Monsieur Mara, bonjour.
Bonjour madame.
Merci
bonjour
d'être avec nous. Merci beaucoup d'accepter notre invitation. Nous aurons les analyses de Félix Boni, journaliste éditorialiste et analyste politique ivoirien. Félix, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va à Abidjan?
Ça va très bien. Ah oui, ça va à l'image du pays. Voilà.
Merci d'être là avec nous dans ce débat. Nous avons également depuis Kinshasa Marcel Ngoyi, journaliste congolais, éditeur du quotidien La Prospérité.
Bonjour, enchanté de participer à cette émission.
Et merci à vous d'être avec nous. Pour mieux vous connaître, Moussa Mara, vous le grand témoin de ce numéro du débat BBC Afrique, Africa Radio, on retiendra que vous êtes né le 2 mars 1975, vous avez donc 45 ans cette année. Vous avez décroché votre diplôme d'expert comptable à l'âge de 25 ans, devenant ainsi le plus jeune expert comptable de l'histoire du Mali. À 34 ans, vous êtes devenu maire de la commune 4 de Bamako. Ensuite, ministre en charge de l'urbanisme et de la ville. Et puis en avril 2014, vous êtes nommé Premier ministre à l'âge de 39 ans. Et à votre sortie du gouvernement en janvier 2015, vous vous consacrez à votre parti Yelema, qui signifie le changement, qui a été créé en 2010. Moussa Mara, vous êtes marié et père de 5 enfants. Est-ce que ces points vous correspondent réellement, Monsieur Mara?
Absolument, absolument, madame. Vous avez bien résumé la biographie.
Eh bien, j'en suis contente. Je le disais donc, en une semaine, le Mali a franchi un autre cap dans la mise en œuvre de la transition avec la nomination du gouvernement. C'est un attelage mixte fait de militaires et de civils dirigé par le diplomate Mokhtar Ouane. Avant d'aborder ce qui pourrait ou devrait être les priorités d'action de cette équipe, je vous propose de parler de cette libération de Soumaïla Cissé. Après plusieurs jours de suspense, il y a eu également des annonces non officielles et c'est finalement le jeudi nuit que le chef de file de l'opposition malienne ainsi que la française Sophie Petronin et 2 autres otages italiens ont été libérés. Soumaïla Cissé, qui était heureux et qui a remercié les nouvelles autorités maliennes, je vous propose d'écouter un extrait de ses propos.
Je suis très heureux d'être là, pour le Mali, pour ma famille. J'ai passé 6 mois dans les conditions que vous savez, sous un climat des plus austères, dans des conditions de vie très difficiles, vous le savez, dans le Grand Sahara, dans un isolement qui est quasi permanent dans cette zone. Mais je dois avouer que je n'ai subi aucune violence, ni physique, ni verbale. Mais aujourd'hui, le propos, c'est pour remercier. remercier les nouvelles autorités maliennes. Elles ont changé pendant mon absence. Le président et le vice-président ont été investis le 25 septembre. Dès le 26 septembre, j'ai été faire une vidéo à la demande de mes ravisseurs pour donner signe de vie. Ça veut dire donc que le président a été efficace.
Moussa Mara, une réaction sur la libération de Soumaïla Cissé?
Nous sommes tous évidemment ici au Mali, mais je pense que c'est votre cas, vous aussi. Nous sommes tous très contents et très satisfaits de cette issue favorable parce que ça a duré 6 mois et pendant ces 6 mois, nous sommes passés de l'espoir et quelquefois à la déception et à la tristesse. Soumaïla est une personnalité importante de notre pays, qu'il soit pris en otage, loin de sa famille politique, ça ne peut être que quelque chose qui est désolant pour le pays. Mmh. Maintenant, il est là, tournons la page et puis surtout, travaillons pour que l'industrie de la prise d'otages ne puisse pas prospérer dans notre pays, quoi, parce qu'il faut aussi reconnaître que ces prises d'otages ont des coûts.
Mmh. Et quand Soumaïla Cissé remercie les nouvelles autorités maliennes, est-ce que selon vous, c'est une victoire justement à mettre à l'actif de ces autorités maliennes?
Vous savez, c'est un processus. La cellule qui a travaillé à sa libération a été mise en place par les autorités qui ne sont plus là, c'est-à-dire le président Ibeka et son équipe. Et le CNSP, le président de la transition et son équipe, je pense, ont eu l'intelligence de reconduire les mêmes équipes et agissant un peu dans la continuité de l'État. Donc aujourd'hui, ce qui s'est passé est à mettre au crédit de toutes les autorités maliennes, c'est-à-dire...
Et pas seulement à l'actif de ces nouvelles autorités. Ça serait leur refiler un gâteau qui n'est pas le leur, une victoire qui n'est pas le leur, si on peut le dire comme ça.
Souvent c'est le cas, hein. Vous savez, il y en a qui débutent, il y en a qui concluent. Ceux qui concluent, c'est eux dont l'histoire retient le nom.
Alors, parlons de cette nouvelle équipe gouvernementale, cette équipe du gouvernement de transition. Quelle est votre lecture en tant que, d'abord, ancien Premier ministre du Mali?
La première chose quand même, c'est que moi, je l'ai souhaité ardemment, c'est que la transition soit neutre politiquement, c'est-à-dire que nous n'ayons pas une participation des partis politiques dans l'exécutif de la transition. Cela semble être le cas dans une très grande majorité. C'est déjà bien parce que nous voulons que les équipes qui soient là n'aient pas d'ambition et travaillent essentiellement à leur tâche de conduite de la transition. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément est que le gouvernement traduit un peu les échanges, les discussions et les positions des différents acteurs. On a d'un côté, le président de la transition, de l'autre côté, son vice-président qui est en même temps le président du CNSP, c'est-à-dire la junte. Et de l'autre, nous avons le premier ministre et puis avec quelques interactions avec la société civile. Le président de la transition est un ancien militaire, son vice-président est un militaire d'actif, joue des rôles importants. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans le gouvernement de Ibeka, les militaires occupaient déjà les fonctions de ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité.
Mais dans ce gouvernement-ci, ils ont non seulement la vice-présidence, mais la réconciliation nationale et l'administration territoriale. Est-ce que, avec cette configuration, on peut dire que la jeune s'est mise en retrait de cette transition?
Déjà, madame, ce qu'il faut noter, c'est que la vice-présidence n'a jamais existé dans l'histoire du Mali. Donc ça, c'est un fait nouveau. Il ne s'agit pas de cela. J'étais simplement en train de dire que la défense et la sécurité ont été traditionnellement occupées par les militaires. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est que les militaires occupent aussi les fonctions de ministre de l'administration du territoire en charge de l'organisation des élections et de la réconciliation nationale. Je pense que par là, et c'était le cas de la transition de 2012 aussi, en ce qui concerne l'administration territoriale, les militaires et la transition entendent vraiment jouer une grande neutralité dans l'organisation des prochaines élections en mettant quelqu'un qui ne peut pas être soupçonné de favoritisme pour X, Y ou Z.
Et donc vous êtes rassuré par la présence d'un militaire à la tête de ce département?
Moi, je comprends d'abord, je serai rassuré quand ce ministre-là démontrera qu'il est en mesure de piloter son département et de nous conduire à bon port. Pour l'instant, on attend de voir de quoi il est capable. Il va sans doute convier les partis politiques à des rencontres pour lancer le processus vers l'organisation des élections. Il y a certaines réformes à faire au niveau électoral et ensuite il y a l'organisation des scrutins. Donc on verra bien s'il se révèle être à la hauteur de la tâche. Mais Je comprends parfaitement qu'un militaire occupe ce poste pendant la transition. C'était déjà le cas en 2012. Maintenant, pour ce qui concerne la réconciliation nationale, ça c'est un autre débat, effectivement. C'est vrai qu'un militaire sur cette position, ça fait poser des questions.
On va revenir sur ces questions. Tout à l'heure, le temps de prendre la première analyse de mes confrères sur cette configuration du gouvernement de la transition. Félix Bonny.
Bien avant, vous permettez que je me prononce sur la libération de l'ex-premier ministre. Je pense que l'opportunité elle mérite qu'on s'y attarde un tout petit peu. C'est quelqu'un qui a été candidat, qui est arrivé par deux fois deuxième aux élections présidentielles. Il a été otage pendant 6 mois. Il est libéré dans un contexte tout à fait particulier, c'est-à-dire un contexte de transition, ce qui vraiment coïncide avec l'actualité politique malienne. Quelqu'un qui a séjourné pendant 6 mois dans l'autre parti un peu adversaire au sud. Et il faut voir déjà que cette libération déjà présage, on a vu beaucoup de personnes qui sont sorties de prison pour aller au palais présidentiel. Cette libération d'un autre avenir politique.
Est-ce que vous voulez vous faire prophète de l'arrivée de Soumaïla Cissé à la tête de l'État du Mali prochainement?
Pas prophète, mais c'est une analyse que je fais. Le fait que le preneur d'otage l'ait libéré actuellement, l'ont gardé pendant 6 mois pour qu'il goûte un peu à leur atmosphère, leur réalité. J'ai entendu Mme Sophie qui disait tantôt que ce ne sont pas des djihadistes, mais il faut les prendre. Il évite même le terme péjoratif de djihadiste contre ces personnes. Je pense que M. Soumaïla Cissé a eu le temps d'appréhender la réalité de cette partie. Et donc,
et ça pourrait être un atout pour lui s'il devait se présenter.
Un atout pour lui, une personnalité tampon par rapport au processus électoral à venir. Donc je comprends qu'il remercie déjà la dirigeante de la transition pour pouvoir déjà être dans le bon vent par rapport à la suite des débats. S'agissant de cette équipe, je pense que, contrairement à ce que d'autres pensent, je pense que les militaires, on est bel et bien dans une transition et les militaires ont occupé des postes clés par rapport à la transition, c'est-à-dire ce qui permettrait au Mali de sortir de la situation de crise qu'il traverse, notamment le problème de réconciliation, l'administration territoriale pour organiser des élections fiables, transparentes et inclusives. Et les militaires veulent être sûrs que le processus ira à son terme de façon très inclusive, transparente et équitable.
Donc vous aussi, vous êtes satisfait de cette configuration, en
Je
gros.
Suis satisfait de cette configuration parce que, quoi qu'on dise, c'est un coup d'État et les auteurs du coup d'État veulent se rassurer à des postes clés que le processus ira de façon équitable pour tous les acteurs politiques.
À son terme. Merci Félix. Marcel Ngoyi.
Oui, je suis en ligne.
Oui, une analyse sur la configuration du gouvernement de transition au Mali.
Oui, moi, je crois que le Mali devient comme le ventre mou de la bourride, où l'instabilité devient comme une pratique courante. Vous savez qu'au Mali, ça nous inspire la mort de Ghislaine Dupont, de Claude Verlon. Le Mali, c'est aujourd'hui les militaires qui prennent les armes, qui déstabilisent les civils qui avaient pourtant gagné les élections.
Mais qui acceptent une transition avec des civils.
Ce qui se passe aujourd'hui n'est que la répétition sous des formats parfois différents avec ce qui s'était passé en 2012 au Mali. Donc on a l'impression de faire un cercle vicieux, de reprendre les vieilles recettes qui ont montré les limites. Et donc quand on met les militaires aux commandes jusqu'à pouvoir leur donner le pouvoir d'organiser les futures élections. Et donc, on incruste la crise dans le système, si bien que cette crise peut devenir endémique. Donc, à chaque cycle électoral, chaque fois que les militaires ne trouveront pas leur compte, et donc il va de soi qu'on déstabilise les civils et qu'on récupère le pouvoir. Et donc, j'ai simplement l'impression qu'on est en train de faire la prime à la guerre et donc de donner la force à ceux qui ont les épaules galonnées à pouvoir chaque fois déstabiliser le système.
Merci Marcel. Permettez.
Un poste a été créé.
Oui, de vice-président de la transition qui n'existe pas dans la Constitution.
Il n'est prévu par aucun texte. Et donc il faut légiférer pour pouvoir trouver les fonctions à donner à ces. Le travail à donner à ses vice-présidents.
Marcel, permettez que notre grand témoin, M. Moussa Mara, réagisse sur cette crainte que vous avez exprimée. Monsieur Barra, est-ce que c'est une crainte que vous comprenez de la part de mon confrère?
Je pense que votre confrère peut-être devrait regarder un peu le contexte dans lequel il y a eu l'intervention du 18 août. C'est que les militaires ne sont pas intervenus parce qu'ils n'étaient pas contents et puis ils sont sortis, ils ont fait quelque chose. Les militaires sont intervenus pour mettre fin à un blocage politique de plus de 3 mois de troubles. Et leur intervention a été saluée dans une grande proportion par la population malienne. Et je dirais, quand vous regardez le contexte international, leur intervention, à défaut d'être soutenue, elle a été comprise, quoi.
Donc pour moi, ça, donc vous n'êtes pas inquiet du tout, vous,
c'est à un élément. Non, là je suis en train de parler du passé, je ne suis pas en train de parler du futur. Par rapport au futur, je suis d'accord avec lui que les périodes de transition sont toujours des périodes délicates. Donc il faut être très vigilant, il faut travailler avec les acteurs pour que la transition puisse atteindre son objectif, c'est-à-dire qu'elle puisse déboucher à des élections transparentes, crédibles, et que la règle constitutionnelle puisse prévaloir et que ces élections soient organisées dans des conditions de neutralité absolue et non de volonté de vouloir placer X ou Y à sa guise aux responsabilités. Donc, il ne s'agit pas de donner une carte blanche aux militaires. Il s'agit d'être vigilant et puis d'accompagner le processus de transition.
Maintenant, on se demande quel va être le rôle des politiques tels que vous, président du parti ILEMA, et aussi les autres hommes politiques du Mali. Quel va être votre rôle dans les réformes institutionnelles qui sont prévues dans cette période de transition?
Oui, il y a deux rôles possibles. Le premier rôle, c'est d'abord de participer aux organes de transition, parce que les organes de transition, ce n'est pas seulement le président et le gouvernement, mais il y a un organe législatif qui sera créé, qui s'appelle le Conseil national de transition. Cet organe de transition sera composé de toutes les forces vives du pays, hein, c'est-à-dire les partis politiques, la société civile et autres. Donc les politiques ont la possibilité d'agir à ce niveau. Et ensuite, les politiques ont la possibilité d'agir simplement en tant qu'acteurs qui donnent leurs avis, qui participent aux rencontres organisées par l'équipe de transition et qui interagissent avec l'équipe de transition. On peut être tout à fait utile à un pays sans occuper de fonctions officielles. Je pense que moi, j'invite vraiment les partis à jouer un rôle de force de proposition à ce niveau-là, aussi bien au niveau du Conseil national de transition que dans l'interaction avec les autres organes de transition.
Vous l'avez souligné tout à l'heure, M. Mara, vous faites partie de ceux qui pensent encore que la classe politique doit être en retrait. La classe politique traditionnelle, notamment, doit être en retrait de cette transition. Pourquoi, en réalité?
Pourquoi vous ne vous faites pas assez
confiance en tant que politique?
Pour deux raisons qui sont objectives et vous allez le comprendre. La première raison est que notre classe politique est très fortement décriée par les populations. En fait, le coup d'État du 18 août a été fait contre le président Ibeka, mais à mon avis, c'est contre une certaine façon de faire la politique dans notre pays. Et je suis sûr que d'autres pays peuvent se retrouver un peu dans cette situation. Donc, dans un contexte où la classe politique est fortement décriée, c'est elle qui a géré le pays pendant les 30 dernières années dans son cadre multipartiste, et que ça aboutit aux résultats auxquels ça aboutit, il est bon que d'autres profils puissent apparaître dans cette période intermédiaire et puissent redresser un peu les choses avant de redonner encore aux acteurs politiques. La deuxième raison est simplement c'est que la transition doit être neutre. Parce que quand les partis politiques enverront des cadres dans l'équipe de transition, ces cadres viendront avec la lettre de mission d'aider d'abord leur parti, d'aider le parti.
Alors, monsieur Mara, je me permets de vous interrompre quelques secondes. Nous avons une pause obligatoire à prendre et nous revenons juste après.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Saint-Ige Mandar Tonté. Le débat.
Et avec comme grand témoin aujourd'hui Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali, qui intervient depuis Bamako. Nous avons également depuis Abidjan, Félix Boni, journaliste éditorialiste et analyste politique ivoirien. Et depuis Kinshasa, notre confrère Marcel Ngoyi, journaliste congolais, éditeur du quotidien La Prospérité. Monsieur, nous allons continuer un peu le débat sur ce premier sujet qu'est le Mali. Monsieur Mara, tout à l'heure, vous étiez en train d'expliquer, de donner les deux raisons pour lesquelles vous préférez que les politiques restent en retrait de cette transition. Vous avez parlé de la crise, on va dire, de confiance entre les partis politiques et la population. Et vous étiez sur le deuxième point qui est la neutralité. Donc pour une transition neutre, il faut que les politiques soient un peu à l'écart, c'est ce que vous voulez dire.
Voilà, qu'ils ne soient pas dans l'exécutif, c'est-à-dire ceux qui vont agir, qui vont porter le dossier, qui vont mettre en œuvre les actions. C'est que les cadres des partis politiques doivent être dans leur parti et être en train de préparer les élections parce que la transition doit être neutre C'est parce que quand un cadre vient au nom d'un parti dans le gouvernement, il aura forcément à cœur d'aider son parti lors des élections ou d'aider son parti simplement en le renforçant de différentes manières ou des manières possibles.
Alors, donc, M. Mara, cette question, oui, et cela fait naître en moi une question. J'ai une question toute simple, peut-être bête à la limite, mais je me dis, est-ce que ce n'est pas trop facile de laisser le gouvernement de transition à politique et nettoyer une situation qui vous est imputable en tant que parti politique?
Mais non, madame, c'est lui qui a créé les problèmes, il est mal placé pour venir le résoudre quand même.
Sinon, mais il a créé les problèmes.
Sera jamais résolu. Et le problème sera toujours créé parce qu'on l'appellera toujours pour venir le résoudre. Non, il faut que sous une certaine forme, il y ait, je dirais, une sanction. C'est cela. L'action du 18 août a été une sanction. Et cette action se poursuit dans la transition. Les acteurs politiques que nous sommes tous, je sais que nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne, mais moi je nous mets tous dans le même sac. Mettons-nous de côté, laissons la transition gérée par des personnalités non politiques, sans ambition, compétentes, et concourons à l'élection qui clôturera la transition. Je trouve que c'est la meilleure posture possible aujourd'hui pour le Mali, pour un peu redorer le blason aux acteurs politiques et pour donner les chances des élections les plus ouvertes, les plus crédibles, les plus transparentes possibles.
En fin de compte, si cette transition se passe bien, celle qui sera la plus grande bénéficiaire, à part la population malienne, on l'espère, ce sera la classe politique qui reviendra aux affaires.
Mais la classe politique, de toute façon, elle a la vocation de concourir aux élections et puis de gérer le pays. La politique est faite pour ça. Donc, ceux qui gagneront les élections auront mérité la confiance des populations et pourront ensuite exercer leur mandat en espérant que la transition aura, entre-temps, nettoyé l'essentiel des problèmes de notre pays. Hein.
Alors, dites-nous, vous parliez tout à l'heure du portefeuille de la réconciliation nationale qui est dirigé, maintenant le département est dirigé par un militaire. Vous avez évoqué ces questions que vous vouliez soulever sur cette problématique. On se demande, est-ce que le fait d'avoir un militaire à la tête de ce département garantit la restauration de l'autorité de l'État malien sur tout le territoire? Est-ce que ça va faire avancer les positions sur cette question?
Le département de la réconciliation nationale, son objet, ce n'est pas de faire en sorte que l'autorité de l'État soit présente sur le territoire. Ça, c'est d'autres départements qui peuvent faire ça. Mmh. Le département de la réconciliation nationale, son rôle, c'est de travailler à ce que les différents segments de notre pays se donnent la main, se pardonnent, et que les processus de réconciliation soient mis en œuvre. C'est pourquoi un militaire qui a plutôt un profil de guerrier, d'homme en armes, n'est peut-être pas la personne la plus appropriée pour cela. Mais cela a été fait. Il y a des militaires qui peuvent peut-être relever le défi et puis se révéler être des faiseurs de paix importants. Mmh. On va donner le bénéfice du doute au ministre Ouagé et puis on le verra à l'œuvre.
Mmh. Alors, dites-nous, en termes de justice, qu'est-ce que vous voyez comme priorité que ce gouvernement de transition devrait mener comme action?
Mais déjà, il y a toutes les questions de bonne gouvernance, de procès à organiser par rapport aux différents scandales qui ont émaillé les périodes précédentes, pas seulement la période de IBK, mais aussi d'autres périodes. On a beaucoup de dossiers qui sont présents au niveau de la justice et malheureusement, ces dossiers n'ont pas fait l'objet de procès et d'issues. Donc, pendant cette transition-là, pour montrer justement la détermination, le président de la transition l'a dit dans son discours, pour montrer la détermination de la transition à lutter farouchement contre l'impunité et la corruption, bah, ce serait bien que des procès puissent être organisés sur les questions de corruption.
Mmh. Marcel Ngoyi, on parle des priorités de ce nouveau gouvernement, de ce gouvernement de transition. Quelles sont les priorités que vous voyez?
D'abord, restaurer la confiance rompue. Vous savez, quand la junte militaire a pris le pouvoir au Mali, IBK a été neutralisé. IBK, c'est un homme politique, un acteur majeur qui a derrière lui un monde. Donc, il faudra établir des passerelles pour permettre que ces gens-là qui ont toujours été avec lui, qui ont dirigé pendant longtemps avec lui, qu'ils retrouvent la confiance dans la nouvelle équipe dirigeante. Deuxièmement, comment inscrire le Mali dans un processus devant déboucher sur des élections libres, transparentes, démocratiques et justes. Et pour y arriver, lorsqu'on met un militaire, il faudra mettre des garde-fous pour qu'au-delà de tout, qu'on arrive à organiser un processus fiable dont les résultats ne seront pas forcément contestés. Donc il faudra mettre en place un mécanisme qui ferait qu'on puisse même y inscrire la possibilité de la certification des résultats, allusion faite à ce qui s'était passé autrefois en Côte d'Ivoire, où l'ONUCI avait eu le mandat de pouvoir certifier les résultats. Ce qui signifie qu'en amont, l'ONU et les institutions internationales devraient avoir un statut particulier en matière d'observation du processus électoral. À ce moment-là, ça renforcerait, ça sécuriserait le processus. La CEDEAO a joué un rôle important parce que la junte ne voulait pas céder. Et maintenant que la junte a cédé, elle a pu prendre, engager des postes importants. Il faudra requalifier le processus en organisant les choses de façon que le militaire, à la longue, ne soit pas forcément dans les arcanes du pouvoir.
Donc la CEDEAO reste vigilante et maintient la pression autour des autorités maliennes. Félix Boni, d'autres priorités que vous voyez pour ce gouvernement de transition ?
Ben, moi, je pense que les militaires, il ne faudrait pas aussi se méprendre sur leur capacité aussi, j'allais dire, à pouvoir aussi être des faiseurs de paix. On a vu parfois des militaires qui ont réussi parfois plus que des civils. Et donc, il faut leur accorder le bénéfice de ce qu'ils pourraient éventuellement nous surprendre. En plus, ce sont des jeunes militaires. Je constate que ceux qui ont pris le pouvoir au Mali sont très jeunes et ils ont encore de l'avenir devant eux. Ils sont face à un challenge qu'ils doivent réussir et j'espère qu'ils vont réussir ce challenge-là.
Mais peut-être qu'ils vont démissionner de l'armée et se présenter à ces élections, aux élections générales.
Je ne pense pas qu'ils pourraient le faire parce que les acteurs politiques qui vont participer refonte, j'allais dire, des tests du Mali dans les différentes structures de la transition pourront calmement prendre des garde-fous pour éviter que ces militaires ne puissent tronquer le pays contre le costume. Mais ce que je voudrais dire, les deux priorités pour moi, pour ce qui concerne le Mali, c'est la réconciliation. Je dirais même trois priorités. La refonte de tous les textes du Mali pour aller à des élections vraiment tranquilles et apaisées, et inclusives, qui vont être équitables pour tous et pour permettre au Mali d'avoir un nouveau président qui va remettre ce pays sur les rails du développement.
Monsieur Mara, pour finir sur le sujet du Mali, est-ce que vous serez candidat à la prochaine élection présidentielle?
Nous sommes en train de nous préparer. Nous estimons quand même que c'est un peu prématuré d'annoncer sa candidature. Nous allons attendre que la transition avance. Nous allons nous préparer. Nous sommes un parti politique. Et le moment opportun, nous déciderons.
Et nous resterons à l'écoute pour savoir quelle sera votre décision. Merci beaucoup, Moussa Mara. Restez avec nous. Nous continuons le débat.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
À un peu plus de 3 semaines de la présidentielle ivoirienne, la méfiance est-elle plus accentuée? L'opposition maintient son chapelet de revendications, le retrait de la candidature d'Alassane Ouattara, le report du scrutin et la révision de la CEI et du Conseil constitutionnel. Mais en face, le camp Ouattara campe également sur ses positions, accusant l'opposition de faire de la diversion et dans le dilatoire. Entre les deux, l'inquiétude exprimée par les institutions régionales et internationales. Nous ouvrons le débat sur la Côte d'Ivoire avec vous, Félix Boni. Est-ce qu'on doit parler justement d'accentuation de la méfiance entre les acteurs de la présidentielle?
Je pense qu'on est arrivé au summum de la méfiance entre la présidence et le pouvoir et ses opposants. Et malgré toutes les postures adoptées par la communauté internationale, on est arrivé à une situation vraiment radicalisée où on se retrouve dans une situation de bras de fer, soit l'opposition arrive à faire une grosse démonstration, à bloquer tout et il n'y aura pas d'élection le 31 octobre, soit l'opposition qui est en grand meeting ce 10 octobre n'arrive pas véritablement à démontrer son poids et le pouvoir fera des élections avec un challenger.
Donc le pari de l'opposition, c'est vraiment cela, bloquer le pays avec la désobéissance civile.
Évidemment, avec la désobéissance civile, aujourd'hui nous sommes dans un schéma de muscles à bander. Le pouvoir bande les muscles, l'opposition bande les muscles, on verra celui qui va débander très vite ses muscles et celui-là sera le perdant de la situation qu'on vit actuellement en Côte d'Ivoire.
Mais je suis tentée de dire que l'opposition ne mise pas le tout pour le tout non plus, puisque elle revendique, elle a des revendications, mais les deux candidats, donc Pascal Afinguessan et Henri Kounan-Bédier, ne conditionnent pas leur participation au scrutin à la satisfaction de ces revendications.
Ah non, Harry Konan Bédié et Pascal Afingessa se sont mis à la touche par rapport à ce scrutin, d'autant plus qu'ils ne participent plus d'abord à tout ce qui est concours au processus, à l'aboutissement du processus pour le 31 octobre. Ils n'ont pas participé aux différentes réunions de la commission électorale indépendante, notamment à la présentation des spécimens des affiches qui a eu lieu.
Mais ils restent candidats, ils ne se retirent pas du scrutin.
Ils restent candidats, ils n'ont pas encore retiré leur candidat, mais vous imaginez qu'à l'heure, jusqu'à l'heure où nous parlons, ces deux candidats qui sont pas quand même pas qui ne sont quand même pas des moindres, n'ont pas encore commencé à élaborer même des stratégies de campagne et qui ne participeront pas éventuellement aux campagnes qui vont s'ouvrir dans quelques jours. Cela prouve qu'éventuellement, s'ils participent à ces élections, ils y vont déjà perdants parce qu'ils ne sont pas vraiment préparés psychologiquement et même matériellement à prendre part à ces élections. Du coup, ils ne peuvent qu'aller jusqu'au bout de leur logique et jouer leur va-tout pour empêcher la tenue de ce scrutin au 31 octobre. Et on verra ce que cela donnera. C'est-à-dire le grand meeting annoncé au stade Félix Oumba va-t-il être le point de départ? On verra ce que cela va donner. L'après 10 octobre est déterminante pour l'action
de l'opposition. Marcel, la demande de l'opposition pour la réforme des institutions, notamment la CEI, c'est une vieille revendication. Par contre, celle du Conseil constitutionnel, c'est nouveau. Selon vous, qu'est-ce qui fait croire aux opposants qu'ils seront entendus? On est à 3 semaines du scrutin.
Oui, c'est difficile. La situation en Côte d'Ivoire est en train aussi de tourner autour du pot. Vous savez que lorsque Alassane Ouattara était venu, il avait une série de revendications. Aujourd'hui, c'est la même chose. Tel que ça se passe là, j'ai l'impression que les opposants ivoiriens vont peut-être aller vers le boycott, ce qui permettrait à Alassane Dramani Ouattara de pouvoir foncer sans coup férir. Et nous pensons que les stratégies de l'opposition doivent être à double niveau, avoir ce qu'on appelle deux fers au feu, tout en revendiquant, mais il faut que l'opposition soit une position dynamique et participative. Parce que si l'opposition arrivait à décider de faire le boycott, et donc ça permettrait à Ouattara de continuer à rempiler. Il ne faudra pas que l'opposition fasse le jeu de Ouattara en lui préparant le lit pour un véritable glissement. Dans le glissement. Il faut qu'on arrive à mettre des mécanismes qui feraient que, tout en revendiquant, que l'opposition participe au futur.
Mais ça serait revenir sur leurs paroles et perdre aussi en crédibilité. Ils ne peuvent pas aller à une élection où ils disent qu'ils ne reconnaissent pas l'organe qui organise, par exemple.
Oui, mais les deux candidats de l'opposition, dont Bédié, qui est un des vieux renards de la politique ivoirienne, demeurent toujours en lice. Ils n'ont jamais retiré leur candidature. Donc, ce qui suppose que jusqu'à ce stade, on peut demeurer optimiste et demander pratiquement à l'opinion d'adhérer à l'idée que nos opposants, tout en revendiquant l'amélioration du processus électoral, il faudra quand même que cette opposition puisse avoir une attitude proactive pour participer au processus, plutôt qu'à les boycotter.
Félix, l'opposition demande aussi la nomination d'un médiateur international. Est-ce que cela pourrait apaiser les tensions? Est-ce que cela pourrait rétablir le dialogue entre les deux camps?
D'abord, il faut noter que si Harry Konan Bédié et Afingessa écrivent pour retirer leur candidature, ils n'auront plus le poids nécessaire qu'ils ont actuellement pour mettre la pression sur le candidat du pouvoir. Donc, c'est pourquoi qu'ils maintiennent. Je pense que c'est pour la raison pour laquelle ils maintiennent encore leur candidature.
Donc, c'est une stratégie. Selon vous, c'est une stratégie politique.
Ça participe de la stratégie politique pour se donner la posture la plus importante pour pouvoir revendiquer. Cela dit, je pense qu'il y a un problème, une crise de confiance entre Ivoiriens et une médiation internationale n'est pas à écarter pour pouvoir éventuellement ramener toutes les positions des bases consensuelles. Parce que si vous nommez même aujourd'hui un quelconque Ivoirien à la tête d'une structure quelconque, il y aura toujours une crise de confiance et ça... Cela nécessite éventuellement l'arbitrage international comme on l'a connu avec la certification de 2010.
Mais quand d'un côté on entend le camp Ouattara qui dit qu'il n'y a pas de crise institutionnelle et donc pas besoin de médiation, et que de l'autre on entend cette revendication de l'opposition, qu'est-ce qu'un médiateur international pourrait leur proposer qui les ferait revenir à la table de négociation?
Je pense qu'au stade où nous sommes arrivés ici avec les positions radicalisées, notamment sur la question de la transition, s'il y avait une transition, ça permettra de regarder de façon très proche et de façon plus, j'allais dire, équitable, toutes les propositions, toutes les institutions pour savoir si effectivement crise institutionnelle ou pas. Mais tant qu'on est dans la logique actuelle et on a un pouvoir très fort, vous savez que la Côte d'Ivoire a un système présidentialiste très fort, on a un pouvoir très fort face à une opposition qui cherche toujours ses marques. Et là, c'est très difficile, très compliqué. Et la médiation internationale, je pense que l'opinion de l'opposition la voit dans un système de transition pour qu'il y ait un arbitrage international à l'instar de ce qu'on a vécu dans le passé.
Merci beaucoup, Félix. Nous allons prendre l'avis de M. Moussa Mara, grand témoin de ce magazine, sur cette question. Monsieur Mara, face à cette méfiance des acteurs de la présidentielle en Côte d'Ivoire, est-ce qu'une transition pourrait permettre d'améliorer le climat et de sortir de cette crise?
Très sincèrement, je crois que je vous l'avais dit, je ne souhaite pas entrer dans certains détails par rapport à la question. Moi, je vais simplement me borner à dire que la situation qui arrive, il faut que nous fassions tout pour qu'il n'y ait pas de déflagration. Il faut que la CEDEAO, qui a déjà envoyé une mission en Côte d'Ivoire la semaine dernière, qu'elle suive le dossier ivoirien au moins autant assidûment que le dossier malien pour agir de manière préventive et qu'on n'entre pas dans un cycle de violence. Et que les acteurs ivoiriens aussi mettent un peu leur pays au-dessus de leurs ambitions personnelles afin d'arriver à une solution qui puisse éviter la violence. Les signes précurseurs sont, je dirais, très inquiétants. Nous sommes un pays voisin. Nous avons beaucoup de relations avec la Côte d'Ivoire.
Justement,
il y a beaucoup de Maliens qui vivent.
Une nouvelle crise ivoirienne va forcément réjaillir
voilà,
sur le Mali.
Une crise ivoirienne, ça ne peut que nous créer des problèmes supplémentaires, quoi. Donc, c'est vraiment un vœu que je formule sans entrer dans le détail des solutions, afin que, je dirais, on puisse entendre raison, encore quand c'est possible.
Félix, est-ce que cette peur d'une crise post-électorale est quelque chose de perceptible dans on va dire, à Abidjan, dans la population? Est-ce qu'on la ressent?
Absolument. Les Ivoiriens dorment les yeux ouverts parce qu'ils ne savent pas de quoi chaque lendemain sera fait. Et donc, ça se vit de façon très criarde au sein de la population qui retient son souffle, qui écoute la voix de la communauté internationale également, qui n'écoute plus ses acteurs politiques, mais qui regarde vers l'international pour savoir qu'est-ce qui va être fait pour notre pays. Parce que au niveau des acteurs locaux, plus personne ne fait confiance à plus personne. Et les Ivoiriens également ne se fient plus aux acteurs politiques qui sont totalement braqués dans des postures très radicales et qui ne donnent pas du tout de signes d'un apaisement. Là, vous voyez que dans toutes les résolutions, toutes les décisions qui sont prises, tous les appels, on appelle au dialogue. Mais quel dialogue? Personne ne veut du dialogue. Le pouvoir n'entend pas ouvrir un nouveau dialogue parce que pour le pouvoir, ce sera du dilatoire pour perdre du temps jusqu'à ce qu'on arrive à une transition. L'opposition pense qu'il faut pour ouvrir ce dialogue, évidemment, ce dialogue l'aiderait éventuellement à obtenir ce qu'elle veut. Et donc, finalement, on est dans une crise totalement de confiance qui emballe totalement tous les Ivoiriens.
Et pour emprunter vos mots, nous sommes peut-être au summum de la méfiance entre les acteurs de la présidentielle. Merci beaucoup, Félix Bonny, journaliste éditorialiste et analyste politique ivoirien. Messieurs, nous allons entamer le troisième sujet de ce débat.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Reporté à plusieurs reprises, le mini-sommet de Goma sur la sécurité s'est finalement tenu en milieu de semaine avec 4 chefs d'État au lieu de 5. Le Burundais Evariste Ndayishimiye était absent. Pas de grandes décisions prises après les 3 heures de discussion par visioconférence, mais une volonté réaffirmée des chefs d'État présents de relever les défis de la stabilité dans la région des Grands Lacs. Marcel, votre lecture après la tenue de ce mini-sommet, 3 heures de discussion par visioconférence, est-ce que c'était un grand événement, comme on l'a présenté?
Oui, un grand événement dans la région parce que le président Félix Tshisekedi préside ces sommets-là après plusieurs ratés. Nous pensons que c'est un événement important pour lui. Lui qui est issu d'une coalition et d'un régime semi-présidentiel, semi-parlementaire, qui copartage pratiquement l'exercice du pouvoir avec un ancien président. Le contexte est celui-là. Deuxièmement, c'est un sommet important parce que nous avons des problèmes d'intérêts communs. L'affaire de groupes armés qui écument le Kivu dans l'ensemble et l'Ituri a des répercussions réelles sur le territoire et les pays qui partagent les mêmes frontières. Le problème de l'exploitation illégale et illicite des ressources naturelles est un problème qui intéresse tous les États de la région. Et donc, il y a la nécessité d'établir des relations de coopération sécuritaire, mais des relations de coopération qui vont dans le sens de redynamiser ce qui ne l'a pas été depuis 18 ans que les autres ont régné à la tête du pays.
Mais donc, j'ai quand même besoin de demander, Marcel, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Qu'est-ce qu'on a entendu de nouveau après ce sommet? Parce que tout ce que vous avez dit, ce n'est pas nouveau.
Oui, mais ce sont ça les sujets qui ont été abordés, justement. Mmh. Donc, nous n'allons pas inventer la roue. Nous évoquons les problèmes qui ont été examinés lors de cette visioconférence en termes de sommet. Et nous pensons que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui préside un tel sommet pratiquement pour la première fois, depuis qu'il est là aux affaires, nous pensons que c'est une amorce d'un début du dialogue. Vous savez que le dialogue dans la région peut permettre d'établir un certain nombre de mécanismes pouvant faire en sorte que, dans le cadre du suivi, qu'on puisse commencer petit à petit à éradiquer les groupes armés qui, depuis des années, n'ont fait que du mal à ces populations, condamnées en permanence à serpenter les montagnes du Kivu, à bivouaquer dans les cuvettes et pourquoi pas à fuir les territoires et les villes et les campagnes.
Le bilan de cette instabilité, en termes
de violence faite aux femmes, le Kivu aujourd'hui devient la capitale mondiale pratiquement, ou l'espace où on expérimente le plus grand nombre de violences faites aux femmes. Et on a même primé quelqu'un comme prix Nobel de la paix qui s'appelle Denis Mukwege, qui se bat pour ce combat.
Marcel, quand le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, déclare à ses homologues, et je voudrais citer quelques-uns de ses mots, la vraie peine n'est pas tant ce qu'en disent les réunions, les mécanismes et les contenus des accords, que ce qu'en font les acteurs. Est-ce que justement la problématique de la situation sécuritaire dans cette région de la RDC, est-ce que ce n'est pas justement cela? Est-ce que tous les acteurs veulent de cette paix?
Oui, c'est justement ce que je voulais dire avant que vous ne puissiez parler. Je fustige particulièrement l'hypocrisie de la plupart des dirigeants africains. Je ne voudrais pas citer les noms de quelqu'un.
On ne se risquera pas à citer des noms non plus.
Donc je pense tout simplement que l'hypocrisie qui règne, la plupart des groupes armés, on en compte aujourd'hui à peu près 70 dans l'équipe seul. Et quand vous regardez le nombre de 70, la plupart de ces groupes ont toujours été apparemment, ce qu'on a toujours dit, que ce sont des fabrications étrangères. Donc il faudra qu'on arrive quelque part à établir un peu plus un dialogue de vérité, un dialogue entre États, pour que les États voisins disent au Congo qu'est-ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent faire du Congo? Qu'est-ce qu'ils veulent faire au Congo? Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec le peuple congolais? Il y a moyen d'obtenir par des voies légales ce qu'on ne peut pas, ce qu'on cherche continuellement par des voies détournées. Moi, je crois qu'il faut encourager le président Félix-Antoine Tshisekedi dans cette voie-là. Établir des coopérations sincères, franches. Demande qu'on approche les autres, qu'on discute, qu'on négocie, qu'on dégage avec eux des voies de convergence pour qu'ensemble, dans une dynamique nouvelle, que les États de la région puissent se redécoller. Mmh. Il existe un accord, il existe un mécanisme de suivi qui, à un moment donné, me paraît comme étant un peu, n'étant pas fonctionnel. Le mécanisme de suivi aurait dû permettre, pourtant, à l'époque, on avait conclu un accord à Addis Abeba, on devait chaque fois examiner, évaluer à travers cet accord-là d'Addis Abeba.
Mmh. Le suivi de ce mécanisme a manqué.
Il faut revenir aux fondamentaux de cet accord d'Addis Abeba et essayer de l'évaluer. C'est vrai que le sommet permet de prendre langue avec les États voisins, mais il y a un des États voisins qui n'a pas pris part formellement, le Burundi. Donc ça fait poser quelques questions.
Félix, c'est un premier pas vers le dialogue qui est renoué sur ces questions d'instabilité en RDC.
Je pense que je m'aligne dans la position de mon confrère de la RDC. Je crois que le mérite de cette rencontre, c'est de l'avoir finalement tenue. Ce n'est pas forcément le contenu. C'est vrai qu'en termes de contenu, il n'y a pas de nouvelles questions qui ont été abordées, mais le mérite réside déjà dans le fait d'avoir pu tenir cette rencontre. Et vous avez vu que pendant 3 heures, cela veut dire qu'il y a eu assez de choses qui se sont dites. Il y a eu certainement beaucoup de questions. On a pu quand même avancer un peu le diagnostic des problèmes. C'est vrai qu'il y a un pays qui n'est pas venu, mais le fait que 4 déjà aient pu déjà se réunir, cela pourrait déjà être le point de départ pour pouvoir ramener l'autre pays également. Je pense que le seul pays qui n'est pas venu à lui seul ne pourrait pas constituer un problème dans toute une sous-région.
Mais quand Marcel parle de l'hypocrisie des chefs d'État africains, ils se réunissent autour d'une table, mais est-ce qu'ils ont réellement le même souhait de parvenir à cette paix, à cette stabilité dans la région?
Je crois que c'est une région qui est une d'énormes potentialités, qui fait que c'est une région qui suscite beaucoup de convoitises et d'appétit, ce qui fait que c'est une région militarisée par des factions qui pillent les ressources de cette région. Cela effectivement justifie ce que Marcel appelle l'hypocrisie. Mais je crois que le fait que ces hypocrites se retrouvent, entre griffes se retrouvent, c'est déjà un premier pas.
On
et
ne
cela
pas
peut
de
permettre
nom.
Progressivement de pouvoir casser toutes les velléités, éventuellement d'arriver à une solution, parce que nul n'a intérêt à ce que cette région demeure toujours un point de discorde et de tuerie massive, de violation des droits de l'homme. Je crois que finalement, le fait de se retrouver déjà, c'est déjà bon que de ne pas se retrouver et d'agir chacun pour ses intérêts.
Il faudra donc persévérer sur la voie du dialogue.
Le dialogue qui a commencé.
Monsieur Moussa Mara, peut-être un mot sur cette question où vous vous abstenez?
Non, je m'abstiens pas, mais je me bornerai à appuyer la conclusion que vous avez faite. Hein. Vous savez, la situation est tellement compliquée au Congo. Quand nous regardons à distance et nous voyons les intérêts formidables qui sont en jeu, avec une histoire très mouvementée, mais aussi des violences inouïes, que tout petit pas est à saluer. Il ne faut pas du tout penser qu'il y aura un grand soir ou lors d'une réunion, on va régler tous les problèmes. Mais si on va de petit pas, et on règle les questions du Nord Kivu, du Sud Kivu, et puis qu'on aille sur d'autres provinces ou qu'on aille sur d'autres problèmes, c'est déjà ça de gagner. Je pense que le Congo se guérira doucement. Il ne peut pas y avoir cette histoire aussi tumultueuse et penser qu'en un mandat ou en quelques années, on pourra le résoudre. Donc on encourage les autorités congolaises, le président Tshisekedi qui a sans doute beaucoup de volonté en la matière, et on espère qu'ils auront le temps nécessaire et la bonne foi nécessaire des partenaires pour y arriver.
Merci beaucoup, M. Mara. Nous allons à présent écouter les avis et réactions de nos auditeurs recueillis et présentés ici par Didier Ladislas Lando.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat_bbcafrica et sur notre page Facebook facebook.com/débat_bbcafrica.
Bonjour Saint-Tiche, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Mali Bala Camara estime que l'éducation, la santé et la sécurité doivent être les 3 axes prioritaires du gouvernement de transition. De son côté, Didos Didier Afodo demande à notre grand témoin s'il pense que les dirigeants actuels ont la capacité de sécuriser tout le territoire malien. Notre auditeur Dabo Mekalavi au Bénin veut aussi avoir l'avis de notre invité sur le fait que l'État malien ait libéré plus d'une centaine de prisonniers contre 4 otages. Côte d'Ivoire, Yacouba Badolo estime que le combat de l'opposition ivoirienne est noble, mais que la lutte doit demeurer pacifique. Pour lui, c'est dans les urnes que cette opposition doit montrer aux Ivoiriens qu'elle est soudée et prête à faire de la Côte d'Ivoire un pays où il fait bon vivre. RDC pour Charles Bazema, le mini-sommet de Goma est une belle initiative pour la paix dans la région du Nord Kivu. Merci à Jordan Moulamba qui nous a rejoint cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/le débat BBC Afrique-Africa Radio et sur Twitter à @débat BBC Afrique. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Et j'espère que vous aurez également un bon week-end, Didier. Vous pouvez continuer, mesdames et messieurs, à envoyer vos commentaires et vos avis sur notre page Facebook. Monsieur Mara, 2 questions essentiellement qui vous ont été posées par nos auditeurs. Je vous laisse le temps d'y répondre en une minute.
Je pense que je vais répondre à une qui me semble importante. Nous devons réfléchir dans notre pays à développer une doctrine par rapport à la question des otages. Malheureusement, vous avez la situation de Somalia Cité qui cache aussi beaucoup d'autres situations et nous avons des préfets, des sous-préfets, des enseignants qui régulièrement font l'objet de rapts et le pays n'a pas de véritable doctrine en la matière. Est-ce qu'il faut libérer des terroristes pour créer la libération de nos otages? Est-ce qu'il faut payer des rançons? En la matière, au niveau international, il y a pas mal d'hypocrisie. Mais au niveau national, nous devons maintenant développer une doctrine et nous tenir à cette doctrine. C'est ce qui va faire que, bon, je pense que dans les mois à venir, la question qui a été posée ne se posera plus.
En termes clairs, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que plusieurs centaines de prisonniers soient libérés, encore que cela n'est pas reconnu officiellement par les autorités maliennes, en échange de 4 prisonniers?
C'est une question très délicate, madame, et c'est une question, à mon avis, qu'on ne peut pas répondre par oui ou par non, parce qu'il y a beaucoup de dimensions dans la question des otages, et il y a aussi, par rapport à la question de Soumaïla, il y avait une campagne internationale très forte qui laissait même penser que les autorités maliennes étaient de mauvaise foi. Donc quand vous avez des situations de ce type, et en l'absence de politique claire en la matière, ben, vous parez au plus pressé. Donc il est très difficile de dire oui ou non. Il faut simplement dire ça a été fait, ça a été fait. Maintenant, tirons-en les leçons et faisons en sorte que demain ou après-demain, on ait une ligne claire et précise par rapport à cette question.
Merci beaucoup Moussa Mara pour ces mots qui viennent clôturer ce débat. Vous êtes ancien Premier ministre du Mali et vous avez été le grand témoin de ce débat. Merci beaucoup Monsieur Mara.
Merci madame.
Et je voudrais aussi remercier mes deux confrères, Félix Boni, journaliste éditorialiste et analyste politique ivoirien, qui intervenait depuis Abidjan. Merci Félix.
Merci Fétiche.
Merci également Marcel Ngoyi, journaliste congolais, éditeur du quotidien La Prospérité. Merci Marcel.
Merci, au plaisir.
Au plaisir de vous retrouver. La production de cette émission, bien sûr, Didier Ladislas Lando, et la mise en onde, Abdou Diop. Merci à tous pour l'attention et bonne suite de programme sur BBC Afrique et sur Africa Radio.
55 minutes pour comprendre l'Afrique et ses changements vus d'ici et de là-bas.
Le débat, BBC Afrique, Africa Radio.
Deux journalistes passent en revue les événements de la semaine avec un invité au cœur de l'actualité. Tous les samedis à 10h02, temps universel, rediffusion le dimanche à la même heure.